Chapitre 44, quatrième principe de Baha'u'llah, unité de la religion et de la science. Nous pouvons comparer la science à une aile et la religion à une autre aile. Pour voler, l'oiseau a besoin de deux ailes, une seule lui serait inutile. Toute religion qui contredit la science ou qui lui est opposée n'est que de l'ignorance. Car l'ignorance est le contraire de la connaissance. La religion qui comporte uniquement des rites et des cérémonies routinières n'est pas la vérité. Efforçons-nous sincèrement d'être des instruments d'union entre la religion et la science. Ali, le gendre de Mohammed, disait « Ce qui est conforme à la science est également conforme à la religion. Tout ce que l'intelligence de l'homme ne peut comprendre, la religion ne devrait pas l'accepter. » La religion et la science marchent la main dans la main, et toute religion en contradiction avec la science n'est pas la vérité. Chapitre 45, cinquième principe de Baha'u'llah, abolition des préjugés. Les préjugés de religion, de race et de secte détruisent les fondations de l'humanité. Toutes les causes de division du monde, la haine, la guerre et l'effusion de sang, sont dus à l'un de ces préjugés. Le monde entier doit être considéré comme un seul pays, toutes les nations comme une seule nation, tous les hommes comme appartenant à une seule race. Les notions de religion, de race et de nation ne sont que des divisions instituées par l'homme et ne sont nécessaires que dans sa pensée. Devant Dieu, il n'y a ni persan, ni arabe, ni français, ni anglais. Dieu est le Dieu de tous, et pour lui, toute la création n'est qu'une. Il faut lui obéir et s'efforcer de le suivre, en abandonnant tous nos préjugés et en établissant la paix sur la terre. Chapitre 46, sixième principe de Baha'u'llah, égalisation des moyens d'existence. Tous les êtres humains ont droit à la vie, au repos et à un certain degré de bien-être. De même qu'un homme riche peut vivre dans son palais, dans le luxe et le plus grand confort, un homme pauvre devrait avoir le nécessaire pour vivre. Personne ne devrait mourir de faim. Chacun devrait avoir des vêtements en suffisance. L'un ne devrait pas vivre au milieu d'un luxe excessif, tandis que l'autre n'a aucun moyen d'existence. Essayons de toutes nos forces de modifier heureusement ces conditions, afin que personne ne puisse être dépourvu de tout. Chapitre 47, septième principe de Baha'u'llah, égalité des hommes devant la loi. C'est la loi qui doit régir la société et non pas l'individu. Cette terre deviendra alors un lieu resplendissant de beauté, où la vraie fraternité régnera. En pratiquant la solidarité, les hommes auront trouvé la vérité. Chapitre 48, huitième principe de Baha'u'llah, paix universelle. Un tribunal suprême sera élu par les peuples et les gouvernements de toutes les nations. Ses membres se réuniront dans un esprit d'unité. Tous les conflits seront examinés devant ce tribunal, dont la mission sera d'empêcher la guerre. Chapitre 49, neuvième principe de Baha'u'llah, non-ingérence de la religion dans la politique. La religion se rapporte aux choses de l'esprit, la politique aux affaires du monde. La religion agit dans le domaine de la pensée, tandis que la politique concerne les événements mondiaux. C'est la tâche du clergé d'éduquer et d'instruire les peuples et de les conseiller utilement, afin qu'ils puissent progresser au point de vue spirituel. Les questions de politique ne le regardent nullement. Chapitre 50, dixième principe de Baha'u'llah, éducation des femmes. Les femmes ont des droits égaux à ceux des hommes sur la terre. En matière religieuse comme dans la société, leur rôle est de première importance. Tant que les femmes seront empêchées d'exercer leur plus haute capacité, les hommes resteront incapables d'atteindre à la haute condition qui pourrait être la leur. Chapitre 51, onzième principe de Baha'u'llah, puissance de l'Esprit-Saint. Le développement spirituel ne peut avoir lieu que par le souffle de l'Esprit-Saint. Le monde aura beau progresser et embellir merveilleusement, il ne sera jamais qu'un corps sans vie s'il n'a pas d'âme, car c'est l'âme qui anime le corps. Celui-ci n'a, par lui-même, aucune signification réelle. Sans les bénédictions de l'Esprit-Saint, le corps matériel serait inerte. Voici très brièvement expliqué quelques-uns des principes de Baha'u'llah. En résumé, il convient que nous soyons tous des amoureux de la vérité. Cherchons-la constamment et partout en prenant garde soigneusement de ne jamais nous attacher aux personnalités. Sachons voir la lumière où elle brille. Puissions-nous être à même de reconnaître la lumière de la vérité partout où elle se présente. Respirons le parfum qu'exhale la rose entourée de ses épines. Désaltérons-nous à l'eau courante de toute source pure. Depuis mon arrivée à Paris, j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer des Parisiens tels que vous, car loué soit Dieu, vous êtes intelligent, sans préjugés, et vous aspirez à connaître la vérité. Vous nourrissez en vos cœurs l'amour de l'humanité, et autant que vous le pouvez, vous vous employez à des œuvres de charité, ainsi qu'à réaliser l'unité. C'est principalement ce que Baha'u'llah a désiré. C'est pour cette raison que je suis si heureux d'être parmi vous. Et je prie pour vous, afin que vous puissiez recevoir les bénédictions de Dieu et répandre la spiritualité dans ce pays. Vous avez déjà une merveilleuse civilisation matérielle. Vous atteindrez de même à la civilisation spirituelle. Monsieur Blake remercia Abdu'l-Bahá et répondit « Je vous suis très reconnaissant des sentiments aimables que vous venez d'exprimer. J'espère qu'avant longtemps, ces deux mouvements seront répandus sur toute la terre. Alors, l'unité de l'humanité aura planté sa tente autour du monde. » Chapitre 52. Premier principe, recherche de la vérité. Le premier principe de la doctrine de Baha'u'llah est la recherche de la vérité. Celui qui veut réussir à trouver la vérité doit tout d'abord laisser de côté toutes les superstitions traditionnelles du passé. Les Juifs ont des superstitions traditionnelles. Les bouddhistes et les zoroastriens, pas plus que les chrétiens, n'en sont affranchis. Toutes les religions se sont trouvées peu à peu liées par la tradition et les dogmes. Chacune d'elles se considère comme la seule gardienne de la vérité, tandis que toutes les autres sont dans l'erreur. Chacune a raison et pense que toutes les autres ont tort. Les Juifs croient être les seuls à posséder la vérité, et ils condamnent toutes les autres religions. Les chrétiens affirme que la leur est la seule vraie et que toutes les autres sont fausses. Il en est de même des bouddhistes et des musulmans. Toutes ces religions se limitent elles-mêmes. Si toutes se condamnent les unes les autres, où chercherons-nous la vérité? Puisqu'elles se contredisent l'une l'autre, elles ne peuvent toutes être vraies. Si chacun croit que sa religion particulière seule est vraie, il ferme les yeux à la vérité contenue dans les autres. Si un juif, par exemple, est attaché aux pratiques extérieures de la religion d'Israël, cela l'empêche de concevoir que la vérité peut exister dans toute autre religion. Pour lui, cette vérité est contenue tout entière dans la sienne. C'est pourquoi nous devrions nous détacher des formes et des pratiques extérieures. Il faut se rendre compte que ces formes et ces pratiques, si belles soient-elles, ne sont que les vêtements qui abritent le cœur ardent et les membres vivants de la divine vérité. Il nous faut abandonner les préjugés de la tradition si nous voulons réussir à trouver la vérité au cœur de toutes les religions. Comment un zoroastrien qui croit que le soleil est Dieu peut-il être en accord avec les autres religions? Comment les idolâtres pourraient-ils comprendre l'unité de Dieu tant qu'ils croiront en leurs différentes idoles? Il est donc évident que pour faire quelques progrès dans la recherche de la vérité, nous devons abandonner les superstitions. Si tous les chercheurs se conformaient à ce principe, ils parviendraient à une claire vision de la vérité. Lorsque quelques personnes se réunissent pour chercher la vérité, elles doivent commencer par se libérer elles-mêmes de toutes les conditions particulières dans lesquelles elles se trouvent et renoncer à leurs idées préconçues. Pour trouver la vérité, il faut abandonner ses préjugés, ses petites notions superficielles. Il est essentiel d'avoir un esprit ouvert et réceptif. si notre calice est rempli du moi, il n'est point de place pour l'eau de vie. Le fait de nous imaginer que nous avons raison et que tous les autres ont tort est le plus grand de tous les obstacles dans la voie vers l'unité. Et l'unité est nécessaire si nous voulons parvenir à la vérité, car la vérité est une. Par conséquent, il nous faut renoncer strictement aux préjugés et aux superstitions personnelles si nous désirons sincèrement rechercher la vérité. Si notre esprit ne fait pas la distinction entre dogme, superstition et préjugés d'une part et vérité d'autre part, nous ne pourrons réussir. Quand nous voulons sérieusement trouver une chose, nous la cherchons partout. Il faut adopter ce principe dans notre recherche de la vérité. La science doit être acceptée. Aucune vérité ne peut contredire une autre vérité. La lumière est bonne, quelle que soit la lampe dans laquelle elle brille. Une rose est belle, quel que soit le jardin où elle fleurit. Une étoile a le même éclat si elle scintille à l'est ou à l'ouest. Libérez-vous des préjugés. Ainsi vous aimerez le soleil de vérité de quelque point de l'horizon qu'il puisse s'élever. Vous comprendrez que si la divine lumière de vérité brilla en Jésus-Christ, elle brilla aussi en Moïse et en Bouddha. Le chercheur sincère parviendra à cette vérité. Tel est le sens de chercher la vérité. Cela veut dire aussi que nous devons consentir à écarter tout ce que nous avions précédemment appris, tout ce qui entraverait nos pas sur le chemin de la vérité. Si cela est nécessaire, nous ne devons pas hésiter à recommencer toute notre éducation. Nous ne devons pas permettre à notre amour pour une religion ou une personnalité particulière de nous aveugler au point de nous entraîner dans la superstition. Quand nous serons délivrés de toutes ces attaches et que nous chercherons en toute indépendance d'esprit, alors nous serons capables d'arriver au but. Cherchez la vérité vous rendra libre. Nous verrons ainsi la vérité dans toutes les religions, car elle existe dans toutes et cette vérité est une. Chapitre 53. Second principe, unité du genre humain. Hier, j'ai parlé du premier principe de l'enseignement de Baha'u'llah, la recherche de la vérité. J'ai dit comment il est nécessaire à l'homme de laisser de côté toutes les superstitions et les traditions qui le rendraient aveugle à la vérité contenue dans toutes les religions. Dans son amour et son attachement à une forme de religion, il ne doit pas se permettre de détester toutes les autres. Il est indispensable qu'il recherche la vérité dans toutes, et si ses efforts sont sincères, il réussira certainement. Or, notre premier pas dans la recherche de la vérité nous amènera au second principe, qui est l'unité du genre humain. Tous les hommes sont les serviteurs du Dieu unique. Un seul Dieu règne sur l'ensemble des nations de la terre, mettant son bon plaisir en tous ses enfants. Tous les hommes forment une seule famille. La couronne de l'humanité repose sur la tête de tous les humains. Aux yeux du Créateur, tous ses enfants sont égaux. Il répand sa bonté sur tous. Il ne favorise pas telle ou telle nation. Il les a toutes créées au même titre. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi établir des divisions et séparer les races les unes des autres? Pourquoi créer ces barrières formées de superstitions et de traditions qui amènent la discorde et la haine au sein des peuples? La seule différence entre les membres de la famille humaine est une différence de degré. Les uns sont comme des enfants ignorants et doivent être éduqués pour parvenir à l'âge mûr. D'autres sont comme des malades et doivent être traités avec soin et tendresse. Aucun n'est méchant ni mauvais. Nous ne devons pas éprouver de la répulsion pour ces pauvres enfants, mais les traiter avec une grande bonté, instruire les ignorants et soigner tendrement les malades. Réfléchissez à ceci. L'unité est nécessaire à l'existence. L'amour est la cause réelle de la vie. D'autre part, la séparation conduit à la mort. Dans le monde de la création matérielle, par exemple, toutes les choses doivent effectivement leur vie à l'unité. Les éléments dont se composent le bois, le minéral et la pierre sont retenus ensemble par la loi de l'attraction. Si cette loi cessait un seul instant d'agir, ces éléments ne resteraient pas assemblés. Ils se sépareraient et l'objet cesserait d'exister sous cette forme particulière. La loi de l'attraction a réuni certains éléments pour former cette belle fleur. Mais quand cette force d'attraction cessera d'agir au cœur de la fleur, elle se décomposera et cessera d'exister en tant que fleur. Il en est ainsi du grand corps que constitue l'humanité. Les lois merveilleuses de l'attraction, de l'harmonie et de l'unité assurent la cohésion aux éléments de cette admirable création. Il en est de même du tout et de ses parties, qu'il s'agisse d'une fleur ou du corps humain, quand le principe d'attraction s'en retire, l'homme ou la fleur cesse de vivre. Il est donc clair que l'attraction, l'harmonie, l'unité et l'amour sont les causes de la vie, tandis que la répulsion, la discorde, la haine et la séparation conduisent à la mort. Nous avons vu que tout ce qui produit la division dans le monde de l'existence cause la mort. Cette même loi agit de façon identique dans le monde de l'esprit. Aussi chacun des serviteurs du Dieu unique devrait-il obéir à la loi d'amour, éviter la haine, la discorde et la lutte. En observant la nature, on remarque que les animaux les plus doux s'assemblent pour vivre en petits groupes ou en troupeaux, tandis que les créatures sauvages et féroces, telles que le lion, le tigre et le loup, vivent dans les forêts vierges, à l'écart de la civilisation. Deux loups ou deux lions peuvent vivre ensemble d'une manière amicale, mais 1000 moutons partageront la même bergerie et un grand nombre de daims peuvent former un seul troupeau. Deux aigles peuvent habiter au même endroit, mais 1 millier de colombes se rassembleront sous un seul abri. L'homme devrait au moins pouvoir être compté parmi les animaux les plus doux. Mais quand il devient féroce, il est plus cruel et plus méchant que l'animal le plus sauvage de la création. Or, Baha'u'llah a proclamé l'unité du genre humain. Tous les peuples et toutes les nations forment une seule famille. Ce sont les enfants d'un seul père, et ils devraient se comporter comme des frères et des sœurs les uns pour les autres. J'espère que vous vous efforcerez, par votre conduite, de manifester et de propager cet enseignement. Baha'u'llah a dit que nous devrions aimer même nos ennemis et nous conduire en amis avec eux. Si tous les hommes se conformaient à ce principe, l'entente et l'unité les plus grandes régneraient dans le cœur des êtres humains. Chapitre 54. Troisième principe. Religion, cause d'amour et d'amitié. Ce principe est exposé avec ampleur dans les nombreux autres discours contenus en ce volume, ainsi que dans les explications de plusieurs autres des principes. Chapitre 55. Quatrième principe. Accord entre la religion et la science. Je vous ai entretenu de quelques-uns des principes de Baha'u'llah. Recherche de la vérité et unité du genre humain. Je vais maintenant vous développer le quatrième principe. Il consiste à accepter le lien qui existe entre la religion et la science. La vraie religion et la science ne sont pas en contradiction. Lorsqu'une religion est en opposition avec la science, elle devient une pure superstition. Ce qui est contraire à la connaissance est ignorance. Comment un homme peut-il croire à la réalité d'un fait démontré impossible par la science? Si contre toute raison il y croit encore, c'est plutôt par une superstition aveugle que par la foi. Les vrais principes de toutes les religions sont conformes aux enseignements de la science. L'unité de Dieu est une idée logique qui n'est pas en opposition avec les conclusions résultant des études scientifiques. Toutes les religions enseignent que nous devons faire le bien et nous montrer généreux, sincères, francs, fidèles et respectueux de la loi. Tout cela est raisonnable, et c'est logiquement le seul moyen par lequel l'humanité peut progresser. Toutes les lois religieuses sont conformes à la raison. Elles conviennent aux peuples pour lesquels elles ont été conçues, et pour la période pendant laquelle elles devront être suivies. La religion possède deux aspects essentiels, le côté spirituel, le côté pratique. Ce qui est d'ordre spirituel ne change jamais. Toutes les manifestations et tous les prophètes de Dieu ont enseigné les mêmes vérités et nous ont donné la même loi spirituelle. Tous donnent le même code de moralité. La vérité ne se divise pas. Le soleil a projeté bien des rayons pour éclairer l'intelligence humaine. La lumière est toujours la même. L'aspect pratique de la religion traite des cérémonies et des formes extérieures, ainsi que des modes de punition pour certaines offenses. C'est le côté matériel de la loi qui règle les mœurs et les coutumes des peuples. Au temps de Moïse, 10 crimes étaient punis de mort. Quand vint le Christ, ceci fut modifié. Le vieil axiome « œil pour œil, dent pour dent » fut remplacé par « aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent ». La vieille loi rigide fut changée en une loi d'amour, de pitié et de patience. Dans les temps anciens, on coupait la main droite à un voleur. Aujourd'hui, cette loi ne pourrait plus être appliquée. De nos jours, un homme qui maudit son père est laissé en vie, alors qu'autrefois, il eût été mis à mort. Par conséquent, il est évident que la loi spirituelle ne change jamais, alors que les règles pratiques doivent s'adapter aux nécessités de l'époque. L'aspect spirituel de la religion est le plus élevé, le plus important des deux. C'est le même en tout temps, hier, aujourd'hui, demain et toujours. Il ne change jamais. Comme il fut au commencement, il est maintenant et sera à jamais. Toutes les questions morales comprises dans la loi spirituelle immuable de chaque religion sont logiquement justes. Si la religion était contraire à la raison logique, elle ne serait plus une religion, mais simplement une tradition. La religion et la science sont les deux ailes qui permettent à l'intelligence de l'homme de s'élever vers les hauteurs et à l'âme humaine de progresser. Il n'est pas possible de voler avec une aile seulement. Si quelqu'un essayait de voler avec l'aile de la religion seulement, il tomberait bientôt dans le marécage de la superstition. Tandis que, d'autre part, avec l'aile de la science seulement, il ne ferait aucun progrès, mais sombrerait dans la fondrière désespérante du matérialisme. Toutes les religions du temps présent sont tombées dans les pratiques superstitieuses qui ne sont en accord ni avec les vrais principes de l'enseignement qu'elles représentent, ni avec les découvertes scientifiques d'aujourd'hui. De nombreux chefs religieux en sont venus à penser que l'importance de la religion consiste principalement à accepter certains dogmes et à pratiquer des rites et des cérémonies. Ceux dont ils prétendent guérir les âmes apprennent à croire d'eux-mêmes, et ils s'attachent avec ténacité à ces formes extérieures, les confondant avec la vérité profonde. Or, ces formes et ces rites changent selon les églises et les différentes sectes. Ils se contredisent même les uns les autres, faisant naître la discorde, la haine et la désunion. Le résultat de toutes ces dissensions est la croyance, professée par bien des hommes cultivés, que religion et science sont des termes qui se contredisent, que la religion ne nécessite aucune réflexion et ne devrait en aucune façon être réglementée par la science, mais que forcément toutes deux doivent être en opposition. La conséquence fâcheuse de ceci, c'est que la science s'est écartée de la religion et que celle-ci est devenue une mise en pratique purement aveugle et plus ou moins apathique des préceptes de certains chefs religieux. Et ces chefs insistent pour que leurs dogmes préférés soient acceptés, même s'ils sont en contradiction avec la science. Ceci est ridicule, car il est bien évident que la science est lumière, et par conséquent, la religion vraiment digne de ce nom ne peut s'opposer à la connaissance. Les expressions « lumière et obscurité »,« religion et science » nous sont familières. Mais la religion qui n'avance pas la main dans la main avec la science se trouve elle-même dans les ténèbres de la superstition et de l'ignorance. La discorde et la désunion qui règnent dans le monde proviennent pour une grande part de ces oppositions et de ces contradictions forgées par les hommes. Si la religion était en accord avec la science, et si toutes deux progressaient côte à côte, cela mettrait fin à bien des haines et des animosités qui, actuellement, plongent la race humaine dans la détresse. Réfléchissez à ce qui distingue l'homme des autres créatures et en fait un être à part. N'est-ce pas sa faculté de raisonner, son intelligence? Ne se servira-t-il pas de ses pouvoirs pour étudier la religion? Je vous recommande de peser soigneusement dans la balance de la raison et de la science tout ce qui vous est présenté comme religion. Si l'examen est satisfaisant, acceptez-la, car c'est la vérité. Si au contraire cette religion n'est pas en accord avec la science, rejetez-la, car c'est de l'ignorance. Regardez autour de vous et voyez comme le monde actuel est submergé par la superstition et les formes extérieures. Il est des gens qui adorent le fruit de leur propre imagination. Ils se créent un dieu imaginaire et ils l'adorent. Alors que cette création de leur intelligence limitée ne peut être le créateur puissant et infini de toutes choses, visibles et invisibles. D'autres vénèrent le soleil ou les arbres ou encore les pierres. Autrefois, il y eut ceux qui adoraient la mer, les nuages et même l'argile. Aujourd'hui, les hommes en sont venus à un attachement tel pour les cérémonies et les formes extérieures qu'ils se disputent sur tel point du rituel ou telle pratique particulière, ou qu'on entend de tous côtés l'écho de leurs arguments fastidieux et de leur inquiétude. Il y a des individus à l'esprit faible dont les facultés rationnelles ne sont pas développées. Il ne faut pourtant pas douter de la force et du pouvoir de la religion, parce que ces personnes sont incapables de la comprendre. Un jeune enfant ne peut comprendre les lois qui gouvernent la nature, mais c'est parce que son intelligence n'est pas développée. Quand il aura grandi et qu'il sera éduqué, lui aussi comprendra les vérités éternelles. Un enfant ne réalise pas le fait que la terre tourne autour du soleil, mais lorsque son intelligence sera éveillée, ce fait lui paraîtra clair et simple. Il est impossible que la religion soit contraire à la science, même si certains esprits sont trop faibles ou n'ont pas la maturité voulue pour comprendre la vérité. Dieu a fait la religion et la science pour servir en quelque sorte de critères à notre entendement. Veillez à ne pas négliger un si merveilleux pouvoir. Pesez toutes choses sur cette balance. Pour celui qui peut comprendre, la religion est comme un livre ouvert. Mais comment serait-il possible à un homme dépourvu de raison et de facultés intellectuelles de saisir les divines réalités de Dieu? Conformez toutes vos croyances à la science. Il ne peut exister d'opposition, puisque la vérité est une. Quand la religion délivrée de ses superstitions, de ses traditions et de ses dogmes inintelligibles se trouvera en conformité avec la science, alors une grande force d'union et d'assainissement paraîtra dans le monde. Cette force détruira toutes les guerres, les conflits, les luttes et les discordes, et l'humanité sera unie dans la puissance de l'amour de Dieu. Chapitre 56, cinquième principe, abolition des préjugés. Il faut renoncer à tous les préjugés, qu'ils soient de nature religieuse, raciale, nationale ou politique, car ils sont la cause des maux dont souffre l'humanité. Il s'agit d'une grave maladie qui, à moins d'être arrêtée, est capable de détruire la race humaine tout entière. Toutes les guerres désastreuses, avec leur cortège de misère et de carnage, ont eu leur point de départ dans les préjugés. Les luttes déplorables qui continuent de nos jours sont provoquées par la haine religieuse et fanatique d'un peuple pour un autre ou par des préjugés de race ou de couleur. Tant que toutes ces barrières dressées par les préjugés ne seront pas jetées bas, l'humanité ne trouvera pas la paix. C'est pourquoi Baha'u'llah a dit « Ces préjugés sont la ruine du genre humain ». Envisagez d'abord le préjugé religieux. Considérez les nations peuplées de gens soi-disant religieux. S'ils étaient de vrais adorateurs de Dieu, ils obéiraient à sa loi qui leur défend de s'entretuer. Si les prêtres de la religion adoraient réellement le Dieu d'amour et suivaient la divine lumière, ils enseigneraient à leurs fidèles d'observer le principal commandement, amour et charité envers tous les hommes. Mais nous voyons le contraire, car ce sont souvent les prêtres qui encouragent les nations à combattre. La haine de religion est toujours la plus cruelle. Toutes les religions nous apprennent que nous devrions nous aimer les uns et les autres, que nous devrions rechercher nos propres défauts avant de nous permettre de condamner les fautes d'autrui, et que nous ne devons pas nous considérer comme étant supérieurs à notre prochain. Il faut prendre garde de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, de peur d'être humiliés ensuite. Qui sommes-nous pour juger les autres? Comment reconnaîtrons-nous celui qui, au regard de Dieu, est l'homme le plus droit? Les pensées de Dieu ne sont pas comme les nôtres. Combien d'hommes, considérés comme des saints par leurs amis, ne sont-ils pas tombés ensuite dans la plus grande humiliation? Pensez à Judas Iscariote. Il avait bien commencé, mais souvenez-vous de sa fin. Par ailleurs, l'apôtre Paul fut un ennemi du Christ au début de sa vie, cependant que plus tard, il devint son plus fidèle serviteur. Comment pouvons-nous alors nous vanter et mépriser les autres? Soyons donc humbles, sans préjugés, préférant le bien des autres à notre bien personnel. Ne disons jamais « Je suis croyant, lui, c'est un infidèle. Je suis près de Dieu, tandis que lui est un réprouvé. » Nous ne pouvons jamais savoir quel sera le jugement final. Aussi, aidons tous ceux qui ont besoin de secours, quels qu'ils soient. Instruisons l'ignorant. Prenons soin du jeune enfant jusqu'à son âge mûr. Quand nous rencontrons un être tombé dans un abîme de misère ou de péché, nous devons être bons pour lui, le prendre par la main, l'aider à reprendre pied et à retrouver ses forces. Il faut le guider avec amour et tendresse, le traiter comme un ami et non comme un ennemi. Nous n'avons aucun droit de considérer nos compagnons mortels, quels qu'ils soient, comme des êtres mauvais. Quant aux préjugés de race, c'est une illusion, une superstition pure et simple, car Dieu nous a créés tous de la même race. Il n'existait pas de différence au commencement, puisque nous descendons tous d'Adam. Il n'y avait non plus ni frontières ni limites entre les différents pays. Aucune région de la terre n'appartenait plus spécialement à un peuple qu'à un autre. Pour Dieu, il n'y a aucune différence entre les diverses races. Pourquoi l'homme inventerait-il un tel préjugé? Comment pouvons-nous soutenir une guerre au nom d'une illusion? Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'ils se détruisent mutuellement. Toutes les races, les tribus, les sectes et les classes reçoivent équitablement leur part des bontés du Père Céleste. La seule différence réside dans le degré de fidélité ou d'obéissance aux lois de Dieu. Il est des êtres qui sont comme des torches lumineuses, d'autres qui scintillent comme des astres au ciel de l'humanité. Ceux qui aiment l'humanité sont des êtres supérieurs, quelle que soit leur nationalité, leur couleur ou leur croyance. Car c'est à eux que Dieu adressera ses paroles bénies, « C'est bien ainsi, mes bons et fidèles serviteurs ». Ce jour-là, il ne demandera pas « Êtes-vous anglais, français ou persan? Venez-vous d'Orient ou d'Occident ?» La seule distinction qui soit réelle est celle-ci. Il y a des êtres qui appartiennent au monde spirituel et d'autres au monde terrestre. Les uns servent l'humanité, faisant abnégation d'eux-mêmes pour l'amour du Très-Haut, amenant l'harmonie et l'union et préconisant la paix et la bonne volonté parmi les hommes. Les autres sont des hommes égoïstes qui haïssent leurs frères, dont le cœur renferme des préjugés au lieu d'une aimante bienveillance, et dont l'influence engendre la discorde et la lutte. À quelle race ou à quelle couleur appartiennent ces deux catégories d'êtres humains, à la blanche, à la jaune ou à la noire? Viennent-ils de l'est ou de l'ouest, du nord ou du sud? Si ces traits distinctifs viennent de Dieu, pourquoi en inventer d'autres? Le préjugé politique est également néfaste. C'est une des causes les plus graves des conflits implacables entre les enfants des hommes. Il existe des gens qui prennent plaisir à provoquer la discorde, qui s'efforcent de pousser sans cesse leur pays à faire la guerre aux autres nations. Et pourquoi? Ils croient en retirer un bénéfice pour leur propre pays, au détriment de tous les autres. Ils envoient des armées pour harceler ces territoires et les détruire, pour le plaisir de conquérir et de se couvrir de gloire aux yeux du monde, afin qu'on dise « tel pays en a vaincu un autre, et il l'a mis sous le joug de sa loi, plus forte et bien supérieure à la sienne ». Cette victoire, acquise au prix de tant de sang, n'est pas durable. Un jour, le conquérant sera conquis à son tour, et les vaincus seront victorieux. Souvenez-vous de l'histoire du passé. La France n'a-t-elle pas conquis l'Allemagne plus d'une fois? Et à son tour, l'Allemagne n'a-t-elle pas vaincu la France? Nous savons aussi que la France a conquis l'Angleterre, puis ce fut l'Angleterre qui l'emporta sur la France. Ces conquêtes fameuses sont tellement éphémères. Pourquoi y attacher une si grande importance et leur attribuer cette gloire, jusqu'à vouloir répandre le sang des peuples pour y parvenir? Est-il une victoire qui vaille l'inévitable suite des maux dus au massacre, au chagrin, à la désolation et à la ruine qui accablent tant de foyers chez les deux nations en conflit? Car il est impossible qu'un seul des pays en souffre. Oh, pourquoi l'homme, l'enfant désobéissant de Dieu, qui devrait être un exemple illustrant le pouvoir de la loi spirituelle, se détourne-t-il de l'enseignement divin pour porter tous ses efforts sur la guerre et la destruction? J'ai l'espoir qu'en ce siècle éclairé, la divine lumière de l'amour répandra son rayonnement sur toute la terre et touchera les cœurs réceptifs de tous les humains. J'espère que la lumière du soleil de vérité incitera les politiciens à se débarrasser de toutes ces prétentions dues aux préjugés et à la superstition, et que, d'un esprit libéré, ils suivront la politique de Dieu, car cette divine politique est puissante, tandis que celle des hommes est impuissante. Dieu a tout créé dans le monde, et il accorde sa divine bonté à toutes les créatures. Ne sommes-nous pas des serviteurs de Dieu? Allons-nous négliger de suivre l'exemple de notre Maître et ignorer ses commandements? Je prie pour que s'établisse le royaume de Dieu sur la terre, et pour que toute l'obscurité soit dissipée par le rayonnement du soleil céleste. Chapitre 57. Sixième principe. Égalisation des moyens d'existence. L'un des principes les plus importants de l'enseignement de Baha'u'llah est le droit de chaque être humain au pain quotidien qui entretient la vie ou à l'égalisation des moyens d'existence. L'ajustement des conditions de vie doit être tel que la pauvreté des peuples disparaisse et que chacun, autant que possible, et suivant son rang et sa position, ait sa part de confort et de bien-être. Nous voyons autour de nous, d'une part, des gens surchargés de richesses et de l'autre, des êtres malheureux, affamés, privés de tout, ceux qui possèdent plusieurs palais somptueux et ceux qui ne savent pas où reposer leur tête. Les uns se nourrissent de plats délicats et coûteux, alors que d'autres trouvent à peine assez de croûte de pain pour subsister. Quelques-uns sont vêtus de velours, de fourrure et de lingerie fine, les autres de minces vêtements de mauvaise qualité, insuffisants pour les protéger du froid. Cet état de choses est injuste et il faut y remédier. Mais le remède doit être choisi avec circonspection. Il ne peut consister à établir l'égalité absolue entre les hommes. Celle-ci est une chimère tout à fait impraticable. Même si on parvenait à l'établir, elle ne pourrait durer. Et si cette égalité était possible, tout l'ordre du monde en serait détruit. La loi de l'ordre doit toujours prévaloir chez les humains. Le ciel l'a ainsi décrété en créant l'homme. Il est des êtres très intelligents, d'autres pourvus d'une intelligence ordinaire et d'autres encore dépourvus d'intellect. Entre ces trois catégories de personnes, il y a de l'ordre, mais pas d'égalité. Comment pourrait-il y avoir égalité entre la sagesse et la stupidité? L'humanité exige, comme une grande armée, un général, des capitaines, des sous-officiers de tout grade et des soldats qui aient chacun une affectation bien déterminée. La hiérarchie est absolument nécessaire pour assurer une organisation méthodique. Une armée ne pourrait se composer seulement de généraux ou de capitaines, ou seulement de soldats sans une autorité à leur tête. Il en résulterait à coup sûr le désordre et la démoralisation pour toute l'armée. Le roi et philosophe Lycurgue avait combiné un vaste plan pour établir l'égalité parmi les habitants de Sparte. L'expérience fut tentée avec sagesse et esprit de sacrifice. Le roi appela ensuite les sujets de son royaume, puis il leur fit jurer solennellement de maintenir le même système de gouvernement s'ils quittaient le pays, et de n'en rien modifier jusqu'à son retour. Ayant reçu ce serment, il quitta le royaume de Sparte et n'y revint jamais. Nota, le roi et philosophe Lycurgue vécut au IVe siècle avant Jésus-Christ. Lycurgue abandonna ainsi sa situation, renonçant à sa haute position et croyant assurer le bonheur permanent du pays par l'égalisation des biens et des conditions d'existence dans son royaume. Tout le sacrifice de ce roi fut vain. La grande expérience échoua. Au bout de quelque temps, tout fut aboli et sa constitution soigneusement élaborée fut changée. la puérilité d'une telle tentative apparut, et l'impossibilité d'établir des conditions égales d'existence fut proclamée dans l'ancien royaume de Sparte. De nos jours, tout essai de ce genre serait également voué à l'échec. Étant donné l'excessive richesse des uns et la pauvreté lamentable des autres, une organisation est nécessaire pour contrôler et améliorer cet état de choses. Il importe de limiter les fortunes et aussi de limiter la pauvreté. Ces extrêmes ne sont pas justes. Il est préférable d'avoir des ressources moyennes. Si pour un capitaliste, il est juste de posséder une grande fortune, il est également juste que ses employés aient des moyens d'existence suffisants. Un financier ne devrait pas posséder une richesse considérable alors que son malheureux voisin est dans un cruel dénuement. Quand on voit la pauvreté aller jusqu'à la famine, c'est un signe certain que la tyrannie se cache quelque part. Les hommes doivent se hâter sans plus attendre de modifier ces conditions qui réduisent un grand nombre de gens à une déprimante pauvreté. Il faut que les riches ouvrent leur cœur, développent en eux une intelligente compassion, qu'ils s'occupent de ces malheureux dénués des pauvres nécessités de la vie et leur donnent une partie de leur richesse. Des lois spéciales doivent être établies concernant ces conditions extrêmes de richesse et de pauvreté. Les membres du gouvernement devraient réfléchir aux lois de Dieu quand ils forment des plans pour gouverner les peuples. L'ensemble des droits de l'humanité doit être maintenu et préservé. Les gouvernements devraient se conformer à la loi divine qui témoigne une égale justice à tous. Tel est le seul moyen permettant de supprimer le regrettable superflu que procure une immense fortune, ainsi que la pauvreté déplorable qui démoralise et dégrade l'homme. Tant que ceci ne sera pas accompli, nous n'aurons pas obéi à la loi de Dieu. Chapitre 58. Septième principe, égalité des hommes. Les lois de Dieu ne sont pas des contraintes provenant d'une volonté, d'un pouvoir ou d'un bon plaisir, mais des résolutions dictées par la vérité, la raison et la justice. Tous les hommes sont égaux devant la loi qui doit régner de façon absolue. L'objet de la punition n'est pas la vengeance, mais la prévention du crime. Les rois doivent gouverner avec sagesse et justice. Les princes, les pairs et les paysans ont des droits égaux à la justice. Personne ne doit avoir de privilèges particuliers. Un juge ne doit pas respecter la personnalité, mais appliquer la loi avec une stricte impartialité dans tous les cas qui se présentent. Si quelqu'un commet un crime envers vous, vous n'avez pas le droit de le punir. Mais la loi se doit de le punir afin d'éviter la réédition du même crime par d'autres, car la souffrance de l'individu est de peu d'importance à côté du bien public en général. Quand la justice parfaite régnera dans tous les pays d'Orient et d'Occident, la Terre deviendra une planète de beauté. La dignité et l'égalité de chaque serviteur de Dieu seront reconnues. Cet idéal, la solidarité de la race humaine et la vraie fraternité, sera réalisée, et la glorieuse lumière du soleil de vérité illuminera les âmes de tous les hommes. Chapitre 59. Huitième principe. Paix universelle, langue universelle. Un tribunal suprême sera établi par les peuples et les gouvernements de chaque nation. Il se composera des membres élus par ces pays et ces gouvernements. Les membres de ce grand conseil s'assembleront dans un esprit d'unité. Tout litige d'ordre international sera soumis à cette cour dont le rôle sera d'arbitrer tout ce qui, autrement, serait une cause de guerre. L'un des grands pas vers la paix universelle serait l'établissement d'une langue universelle. Baha'u'llah ordonne aux serviteurs de l'humanité de se réunir pour choisir ensemble une langue qui existe déjà ou pour en former une nouvelle. Ceci fut révélé dans le Kitab Yaqdas il y a 40 ans. Ce livre indique que la question de la diversité des langues est très difficile à régler. Il y a plus de 800 langages différents dans le monde, et personne ne pourrait les connaître tous. Nota, le Kitab Yaqdas est le livre des lois de Baha'u'llah. Les races qui composent l'humanité ne sont plus isolées comme jadis. Aujourd'hui, pour être en étroite relation avec tous les pays, il est nécessaire de pouvoir parler leur langue. Une langue universelle rendrait possible les relations avec chaque pays. Il suffirait ainsi de connaître deux langues seulement, la langue maternelle et la langue universelle. Cette dernière permettrait à un homme de communiquer avec n'importe qui dans le monde. Une troisième langue ne serait pas nécessaire. Comme ce serait utile et agréable de pouvoir s'entretenir avec un membre de n'importe quelle race et de n'importe quel pays sans recourir à un interprète. C'est dans ce but que l'espéranto a été composé. C'est une belle invention, un admirable travail, mais qui demande à être perfectionné. Tel qu'il est, l'espéranto présente de grandes difficultés pour certaines personnes. Un congrès international devrait être convoqué, comprenant des délégués de toutes les nations d'Orient et d'Occident. Ce congrès devrait composer une langue que tout le monde pourrait apprendre et chaque pays en retirerait un grand bénéfice. Tant qu'un tel langage ne sera pas utilisé, le monde continuera à ressentir le grand besoin de ce moyen d'entente. La diversité des langues est l'une des causes les plus fécondes de méfiance et d'animosité entre les nations. Celles-ci restent à l'écart les unes des autres à cause de leur incapacité à se comprendre, plus que pour toute autre raison. Si tout le monde pouvait parler la même langue, comme ce serait plus facile de servir le genre humain. Aussi faut-il apprécier l'espéranto, car c'est le début de l'accomplissement d'une des plus importantes lois de Baha'u'llah, et il faut continuer à l'améliorer et à le perfectionner.